enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Tournez avec moi dans le livre de Néhémie. Je vais vous laisser trouver le livre de Néhémie après les rois, les noms, Josué, Samuel, les rois, les chroniques. Avant Job, si vous êtes à Job, de trop loin tourner à gauche. Avant les psaumes et les proverbes, vous avez trouvé le livre de Néhémie. Combien d'entre vous avez trouvé Néhémie? Dites amen. Combien d'entre vous, j'entends les pages qui tournent furieusement. Combien d'entre vous êtes en route vers Néhémie en ce moment? Combien sont convaincus que Néhémie n'existe pas dans la Bible? Néhémie, le premier chapitre. On va la lire dans quelques instants. Vous pouvez regarder ici un moment. Nous sommes au message, troisième partie d'un message que nous intitulons « La génération Néhémie ». Et la génération Néhémie, par-dessus toute chose, est une génération qui désire un changement, qui désire voir l'Église être tellement plus que ce qu'elle a été et qui refuse un certain type d'Église chrétienne recroquevillés sur eux-mêmes, centrés sur elles-mêmes et qui cherchent désespérément à ignorer ce qu'il y a à l'extérieur d'elles. La génération Néhémie a une vision d'être rebâti, chaque chrétien rebâti jour après jour, mais afin de rebâtir, avec une passion pour rebâtir. À travers l'histoire, il y a des moments poignants, à travers l'histoire de notre siècle, des moments poignants, où l'Église est si belle et si magnifique lorsqu'elle est remplie de cette vision d'être rebâtie afin de rebâtir. Mais il y a aussi des moments, et vous savez, nous ne voulons pas détourner les yeux, nous ne voulons pas cacher, couvrir ou prétendre ignorer la laideur et les faiblesses de l'Église. Je crois parfois que nous sommes les critiques les plus sévères de l'Église. Nous aimons l'Église chrétienne, mais nous voyons ce qui est mal dans son passé et ce qui doit changer dans son présent, ce qui doit mourir de son présent afin d'être transformé dans son avenir. La génération Néhémie, c'est aussi un refus farouche d'être cette Église qui, à la limite, lorsqu'elle est tournée sur elle-même, peut être d'une laideur extrême. Je vous donne un exemple historique de 1943 en Allemagne. Un de mes héros, Dietrich Bonhoeffer, qui est un pasteur allemand, qui est un de mes héros, raconte dans sa biographie cette anecdote que, alors que lui était pasteur en Allemagne, pasteur évangélique, et beaucoup de mouvements évangéliques, ne comprenant pas bien sûr tout ce qui s'en venait, tout ce qui se préparait, l'horreur de ce qui se préparait, avait épousé les valeurs du Troisième Reich et du nazisme à l'époque, bien sûr ne comprenant pas où tout cela était pour mener, mais des moments d'horreur vers la fin. Bonhoeffer lui a dénoncé l'horreur nazie et finalement a été amené captif dans les camps nazis où il est mort lui-même. Mais alors qu'avant qu'il soit sous arrestation, il vivait le tourment dans son cœur, il vivait la colère de voir tout était commencé, les camps d'Achau, de Auschwitz et d'autres étaient en opération. Il y avait beaucoup de gens savaient qu'il y avait des choses terribles qui se passaient, et pourtant l'Église évangélique cherchait désespérément à juste continuer. C'était tellement horrifiant ce qui se passait autour que cherchait à continuer avec ce qu'on a toujours fait. Et dans sa biographie, Bonhoeffer raconte cette anecdote où il parle avec un ami pasteur qui lui dit, on est à peu près en 1943-44, et les trains par centaines de milliers amènent des gens vers les camps de concentration qui vont disparaître. Et alors qu'il parle avec son ami pasteur, son ami pasteur lui dit, c'est terrible parce que comme tu sais, Dietrich, notre église est très proche des chemins de fer, des rails de chemin de fer. Et il y a eu une époque où on a commencé, il y a quelques mois ou années, on entendait parler qu'il y avait des trains, puis finalement on a réalisé qu'il y avait des trains qui passaient tout près de l'église, qui amenaient les gens là-bas. Puis c'est terrible tout ça. Puis il dit à Bonhoeffer, c'est encore pire parce que là c'est quotidien, c'est tout le temps. Et il dit à Bonhoeffer, récemment on a vécu quelque chose de terrible. Pendant qu'on était ensemble, c'est une petite congrégation, pendant qu'on était ensemble un dimanche matin, on entendait les trains qui passaient. Puis il y a des gens de l'église qui disaient qu'ils entendaient les gens crier dans les trains. Et Bonhoeffer dit à son ami, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Et son ami lui dit, écoute, au début, on savait pas trop quoi faire. Mais il dit, à un moment donné, les gens chantaient, et puis les trains, il y en a qui ont commencé à se parler l'un à l'autre, puis il dit, alors qu'on est en plein milieu d'un chant de cantique, les gens ont arrêté de chanter. Tout le monde me regardait, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va faire? L'horreur passe à côté de nous. Et bon enfant de dire, mais qu'est-ce que t'as fait? Et son ami lui dit, écoute, je savais pas trop quoi faire, mais finalement, j'ai dit aux gens, mes frères, mes sœurs, chantons plus fort! Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez que la génération Néhémie est une génération de tous les âges qui se lève en disant, nous refusons de simplement chanter plus fort. Nous refusons de simplement nous tourner sur nous-mêmes et de perpétuer nos rituels religieux ou dénominationnels. Nous sommes des hommes et des femmes qui sont à la poursuite de Dieu afin de s'emparer de tout ce que Dieu a pour nous, afin que moi et que vous et que ma famille et votre famille, nous soyons rebâtis par Dieu afin qu'ensemble, l'Église, nous puissions rebâtir des êtres humains. Est-ce que vous pouvez dire amen et applaudir cette vision parce que c'est le cœur de l'Église, c'est l'Église Nouvelle Vie. Nous regardons au personnage de Néhémie dans la Bible, qui représente un genre de croyant et une mission qui est la nôtre. La mission de la génération Néhémie à laquelle nous vous appelons à prendre votre place ici aujourd'hui en 2005. Qui est Néhémie et quel est son message? Son nom veut dire la consolation de Dieu. Il reçoit, et là, pas consolation seulement dans une dimension de suivre des larmes, mais une consolation dans le sens de quelqu'un qui est consolé, qui est rétabli, qui est reconstruit, rebâti par Dieu afin d'amener la consolation à d'autres. Son message est être rebâti afin de rebâtir d'autres. Il est un conseiller gouvernemental pour le roi de Perse et la puissance mondiale dominante de son époque. C'est un homme séculier. Ce n'est pas un pasteur ou un sacrificateur ou un prêtre de l'époque, c'est un homme séculier. Un homme avec un emploi, c'est quelqu'un qui évoluait dans son monde séculier, mais qui a été touché, appelé par la main de Dieu, par la voix de Dieu, et a répondu à l'appel d'aller afin de rebâtir des murs qui s'étaient effondrés. Un homme historique, authentique, un récit qui prend place 444 ans avant Jésus-Christ. Un homme qui est à un carrefour de décision pour sa vie, qui va avoir un impact éternel. Lorsque vous lisez les premiers mots du livre de Néhémie, il y a des dates exactes, des dates précises, un lieu précis, une décision. Néhémie se rappelle, c'était ce jour-là, c'était cette année-là que tout a commencé, où j'ai pris ma décision. Un rappel de l'Esprit de Dieu, qu'il n'y a aucun désir, aucune possibilité dans le cœur de Dieu, et aucun désir et un avertissement dans son cœur que nous bannissions de nos vies toute dimension rituelle de dire on vient à l'église mois après mois ou année après année, mais qu'à chaque jour où on se réunit ensemble dans sa présence, Dieu a une intention. Ce matin, on a des gens qui sont en prière en ce moment pour nous, comme à chaque dimanche matin, et toute la semaine nous avons été en prière parce qu'on croit qu'à chaque fois qu'on se rencontre, vous pouvez avec nous prendre des décisions et que Dieu va être au rendez-vous et que des choses vont changer dans nos vies. À chaque semaine, à chaque moment, dans la présence de Dieu. Et Néhémie est un portrait de la puissance du consolateur et du peuple consolateur. Un homme appelé par Dieu à sortir de sa zone de confort, de ce qui lui est familier, afin de rebâtir. Et cet appel-là est envers chacun d'entre nous, et cet appel-là retentit aussi envers l'Église Nouvelle Vie. Retentit envers nous dans cette journée, dans ces mois et ces années à venir, à sortir de toute zone de confort et de toute chose qui pouvait être bien, mais qui pourrait nous empêcher maintenant de nous emparer de ce que Dieu a pour nous. Un homme qui seul ne peut rien, mais qui est appelé à un moment historique et prophétique, alors qu'il s'unit à un peuple de foi. Un portrait de l'Église que chacun d'entre nous ne pouvant faire si peu seul, mais qui ensemble, les croyants de cette Église, réunis avec des croyants à travers le Québec, réunis avec des croyants dans la francophonie, peuvent faire quelque chose, peuvent changer des choses. Un homme qui représente une génération à un carrefour de l'histoire, appelé à bâtir quelque chose de beau et d'éternel. Un homme qui va rallier une génération à bâtir un avenir meilleur pour des générations futures. Ce que nous allons découvrir dans cette série de messages, comment rebâtir notre vie personnelle. Des clés puissantes pour le combat spirituel. La semaine prochaine, un portrait extraordinaire de l'œuvre du Saint-Esprit. Nous allons voir dans les semaines suivantes comment être délivré de la honte, des insécurités, des sentiments de rejet, de jalousie qui nous dévorent ou nous paralysent. Ce qui nous semble sans importance, mais qui est de suprême importance pour Dieu. Il y a dans le livre de Jérémie des secrets spirituels extraordinaires. Et pour chaque personne ici dans les prochaines semaines, comment réaliser nos rêves et accomplir notre vision? Et il y a 7 clés dans ce livre de Néhémie. Une première clé que nous appelons une clé d'espoir et d'engagement. Nous changeons, nous sommes transformés, nous sommes rebâtis, nous pouvons rebâtir lorsqu'à chaque jour est renouvelé dans nos cœurs par la foi l'assurance que avec Dieu, il est possible d'être rebâti et de rebâtir. Une persévérance et une confiance qu'il est possible d'être rebâti et de rebâtir notre famille, de rebâtir nos enfants, rebâtir nos cœurs, nos vies et rebâtir l'Église. On va regarder notre texte ce matin dans un instant dans Néhémie 1, mais comprenez bien le contexte de Néhémie. Il y avait eu 150 ans auparavant un ennemi qui était entré, qui les avait amenés en captivité. Le peuple avait été dévasté. Jérusalem avait été détruit complètement. Chacune de ses pierres avait été brûlée par le feu. Et il commence à y avoir des vagues du peuple qui sont permis de revenir et qui ont recommencé à louer Dieu, commencé à servir Dieu. Mais des décennies s'écoulent. Sans changement, il y a un temple déchu, des ruines et des tentes. C'est un portrait saisissant. Un temple déchu au milieu des ruines et de la destruction. En d'autres mots, des gens qui étaient complètement captifs avant reviennent, mais alors qu'ils reviennent, en nos termes modernes à nous, qui reviennent à Dieu, viennent à Dieu, viennent à l'Église, il y a un temple qui est là, et leur vie est un temple, parce que chacun d'entre nous venons au temple à chaque semaine, mais nous sommes, nous, le temple du Saint-Esprit. L'Église n'est pas le bâtiment, c'est simplement un lieu où on se rencontre. L'Église, c'est vous. Vous êtes le temple de Dieu. Dieu habite en vous. Vous pouvez vous dire amen? Alors que nous venons ensemble, ils étaient là, et les années passent, ils ne sont plus complètement étrangers à Dieu, mais les choses demeurent les mêmes, les choses demeurent en ruine. Il y a un ordre, il y a une restauration, une victoire, une joie, une mission à laquelle Dieu les appelle, qu'ils n'atteignent jamais. Et la première clé, et Dieu appelle Néhémie à être le consolateur qui va être rebâti, qui va rebâtir les autres autour de lui. Et il l'appelle avec une première clé d'espoir et d'engagement. J'ai foi, j'ai confiance, c'est profond en moi, ça ne me quittera jamais. Je n'abandonnerai jamais cette pensée, quel que soit ce qui arrive, que Dieu est capable de me rebâtir et que Dieu veut m'utiliser afin de rebâtir d'autres. Et on trouve notre texte de ce matin dans le livre de Néhémie, le premier chapitre. On va regarder dans la Bible ensemble, les versets 2 à 10. Nous allons lire une portion un peu plus prolongée qu'à l'habitude dans Néhémie chapitre 1, qui nous donne, qui est le texte pour notre message entier de ce matin. Et si vous n'avez pas de Bible, il n'y a personne près de vous qui peut vous permettre de lire dans la Bible, vous le voyez vous-même avec eux, le texte va apparaître sur l'écran. Néhémie chapitre 1 et le verset 2. « Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. » Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés dans la captivité sont là, ils sont dans la province, mais au comble du malheur et de la honte, de la souffrance, de la douleur. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, les portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, Néhémie raconte son témoignage, ce qui lui est arrivé. Lorsque j'entendis ces choses, je me suis assis, j'ai pleuré et je fus plusieurs jours dans la désolation. J'ai jeûné, j'ai prié devant le Dieu des cieux. Et j'ai dit à Dieu, ô Éternel, Dieu des cieux grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, pour les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Il n'y a pas de restauration possible dans la vie d'un être humain s'il ne vient pas un moment d'honnêteté, un moment de transparence, un moment où il cesse de se justifier, de couvrir, de cacher, d'excuser ou de blâmer quelqu'un d'autre. Et il s'arrête lui-même et dit, voici, je suis moi devant toi, je prends responsabilité pour ma vie, j'ai besoin d'être restauré par toi. Nous t'avons offensé, nous n'avons pas observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu as prescrites à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés, même si vous étiez exilés à l'extrémité du ciel, là, de là, je vous rassemblerai. C'est pas, ça n'a pas d'importance comment tu te penses loin, comment tu penses que tu as creusé un trou, comment tu penses que les choses sont difficiles. De là, où que tu sois, Dieu te dit ce matin, je vous rassemblerai, je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Espoir, engagement, les mots-clés de ce texte, les captifs sont au comble de la douleur. Mais lorsque nous venons en prière devant le roi des cieux, avec une assurance qu'il est grand, puissant, fidèle à ses promesses, et quel besoin pour nous de recapturer ces mots de Néhémie, alors que Néhémie a dit, Seigneur, je suis en prière devant toi, pour moi et pour ma famille. Une génération de papa et de maman, quel que soit votre âge, de grands-parents, qui se lèvent avec ce courage de dire, je n'abandonne pas aucun de mes fils, aucun de mes filles. Seigneur, je suis là pour moi, je suis là pour mon mariage, je suis là pour ma famille. Le courage de rebâtir, le courage de combattre afin de rebâtir. Je suis en prière pour moi et ma famille, parce que nous avons péché, nous n'avons pas écouté tes commandements. Et là, tu viens à Dieu avec une promesse d'espoir, avec l'espoir qu'il est toujours capable de rebâtir afin que tu puisses rebâtir d'autres. Tu as promis que si je revenais, tu me rassasierais. C'est ça que vous pouvez dire à Dieu ce matin. Seigneur, tu as promis que si je revenais à toi, que tu m'as choisi, puis tu veux me faire habiter dans un lieu, dans un endroit, me faire découvrir une place dans ma vie où la puissance de ton nom va résider en moi. Et où, Seigneur, tu vas me libérer par ta grande puissance et par ta main si forte. Je veux le déclarer ce matin parce qu'il y a plusieurs qui ont besoin de l'entendre dans ce lieu. Et il y a aussi des gens qui vont écouter ce message sur notre émission de radio qui vont avoir besoin de l'entendre. Je veux déclarer ce matin et prier que comme un courant d'électricité divine, la foi puisse entrer dans votre cœur ce matin, que quelles que soient les chaînes, quelle que soit la captivité, quel que soit ce qui t'a tourmenté toute ta vie, nous servons un Dieu qui est grand. Il est puissant, il a une main forte. Ce n'est pas une série de concepts religieux que nous vous présentons. C'est un Dieu vivant. Je veux déclarer que la Bible est le plus vieux livre dont l'auteur est toujours vivant. Je veux déclarer que cette parole est vivante parce que Dieu est vivant et quel que soit ce qui a été démoli, notre Dieu est capable de le rebâtir. Et quelqu'un devrait dire, est-ce qu'il y a des Néhémies dans ce lieu ce matin? Cette semaine, j'ai donné une interview à une équipe de télévision qui venait d'Europe. Ils m'ont dit que ça va, l'émission et le reportage vont être vus à travers toute l'Europe. Ils ont voulu faire, ils sont allés aux quatre coins du Québec et ils voulaient absolument être ici, dans le sanctuaire. Ils voulaient montrer la grandeur de l'Église, le sanctuaire de l'Église. Et c'est un interview, il y avait des caméras de télévision, tout ça. Et leurs questions étaient du genre, comment ça se fait, pourquoi on dit partout que la religion s'éteint, que le christianisme est quelque chose du passé, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, etc., etc. Et j'ai eu l'opportunité de préparer, j'ai fait une pratique, j'ai eu une répétition générale pour mon sermon de ce matin, je leur ai prêché la génération Néhémie. Je leur ai dit que la raison pour laquelle nous sommes tous ici, c'est que nous croyons en un Dieu qui rebâtit chaque être humain afin de faire de nous des gens qui vont rebâtir d'autres. Et j'aimerais vous dire que quel que soit ce qui se passe dans votre vie, il faut que ce matin vous lui demandiez, il faut que vous saisissiez la première clé, que j'ai cet espoir, j'ai continuellement cet espoir. Cet espoir pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, pour ma propre vie, j'ai cet espoir et cet engagement que Dieu m'a appelé, moi, être rebâti afin de rebâtir d'autres. Je voudrais vous le témoigner ce matin de deux façons. Dans un témoignage que j'appellerais le témoignage des deux Brian. Dans la dernière semaine, j'ai reçu un email d'un homme de l'Église qui dit ce matin qui s'appelle Brian, mais j'ai aussi entendu le témoignage d'un autre Brian. Les deux sont à des allées-lumière l'un de l'autre. Mais les deux Brian nous rappellent, les deux témoignages que j'ai entendus cette semaine, nous rappellent la puissance de ce Dieu vivant pour rebâtir des êtres humains. Et Brian m'a écrit, j'ai reçu ça cette semaine, et je leur remercie d'avoir envoyé ce email. Et ce matin, j'ai pris une portion de ce long email qu'il m'a envoyé, puis il m'écrit, « Cher Monsieur Hood, je m'appelle Brian, et toute ma famille va à Nouvelle-Vie depuis 3 ans. » Et c'est un, je pense, un anglophone qui parle français. Il y avait beaucoup d'anglicisme dans sa lettre. Ça me faisait sourire. Il écrit, « Ma mère et mon père ont arrêté de boire. Ma sœur était une fugueuse qui se gelait et qui était toujours dans le trouble. Et maintenant, elle va super bien au cégep et elle étudie pour être travailleuse sociale. Incroyable. Elle va à l'église avec mes parents depuis 2 ans. Avant, elle me haïssait et on se criait toujours après. Mais maintenant, elle est super avec moi et elle me dit qu'elle prie pour moi. » Pendant là, il écrit, « This freaked me out. » Elle me faisait capoter qu'elle me dise qu'elle priait pour moi. Et tous les parents savent ici que c'est un des miracles du christianisme, que tous nos fils et nos filles, il n'y a jamais un frère et sœur chrétien qui chicane. Amen. Bon, on va continuer avec notre message. C'est un message, c'est un miracle progressif. Je ne vivais plus chez nous depuis l'âge de 15 ans. J'ai 23 ans aujourd'hui. Je me gelais depuis l'âge de 12 ans. Il écrit, j'ai tout fait. En anglais, il dit, I've done everything. J'ai lâché l'école en secondaire 2. Je volais et je vendais du stock volé. N'importe quoi. Anything. C'est très payant, mais ça me coûtait plus de 2 000 $ par semaine pour la coke que je sniffais et que je m'injectais. Entre 16 et 21 ans, j'ai essayé 6 cures de désintox, des thérapies et des centres. Je n'ai jamais été plus que quelques semaines sobre. Je recommençais toujours et je me gelais, même en cachette, pendant mes thérapies. Je suis venu à Nouvelle-Vie avec mes parents et ma sœur à Noël en 2003. J'étais au fond du trou. Ma sœur m'a présenté des gens de l'Église et un des gars m'a parlé d'un centre de thérapie chrétien. J'ai entré en janvier 2004. J'ai passé 10 mois là-bas. J'ai complété ma thérapie. On priait chaque jour et Dieu m'a donné la force d'être sobre 24 heures à la fois depuis maintenant 14 mois. Il dit, pas de dope, on va l'applaudir dans un instant. Il dit, pas de dope, pas d'alcool, pas de cigarette, je suis clean. J'ai engraissé de 25 livres. Ce n'est pas, je veux dire à tout le monde, ce n'est pas une des manifestations du christianisme, je vous le promets. Je suis les 12 étapes. Je viens à Nouvelle-Vie le dimanche, à la jeunesse le vendredi soir, à un groupe de cœur Nouvelle-Vie. Il écrit, lui, la mère le dit, me fait sourire. À un groupe de cœur pour la Nouvelle-Vie les jeudis. Il écrit, c'est hot. Je refais mon secondaire le soir et un homme de l'église, des nouveaux amis de mes parents, m'a donné une chance dans sa compagnie. J'ai une vraie job et je fais un vrai salaire pour la première fois de ma vie. Je veux étudier en informatique après mon secondaire. Pasteur Claude, je voudrais que vous disiez ma lettre en avant. Je m'appelle Brian et je suis fier d'être un chrétien Nouvelle Vie. Pouvez-vous dire amen? Il y a un Dieu qui vient changer la vie, rebâtir des êtres humains. J'aimerais vous dire que cette église, Néhémie, va changer le cœur de milliers de personnes. Qu'il y a dans ce monde, dans notre société, un dédain, il y a un mépris ou une suprême indifférence pour l'église traditionnelle qui est recroquevillée sur elle-même et qui déblatère et vomit ses platitudes semaine après semaine. Mais il y a dans le cœur de millions, je le crois, de centaines de milliers de Québécois et de Canadiens et de gens à travers le monde, dans nos sociétés modernes, il y a des gens qui ont soif, qui cherchent cette génération Néhémie, des chrétiens qui sont rebâtis et qui sont engagés à se donner à d'autres. Et ça, c'est mon deuxième Brian. J'ai entendu cette semaine le témoignage de Brian Stewart. Il est un des journalistes, c'est une personnalité télévisée très, très connue du Canada anglais. Vous le voyez régulièrement aux nouvelles anglophones canadiennes. Brian Stewart. Le deuxième Brian, un des journalistes les plus chevronnés du pays, récipiendaire du trophée Gemini pour le meilleur journaliste de radio-télévision toute catégorie, récipiendaire du trophée Gemini pour le meilleur segment informatif. Son producteur exécutif a dit de lui, « Assigner un reportage à Brian nous garantissait qu'aucun autre média ne pourrait nous battre. » Il a eu le privilège d'interviewer des leaders mondiaux tels que Margaret Thatcher, Lee Valessa, Nelson Mandela, Henry Kissinger. Le journaliste canadien Brian Stewart, animateur de l'émission CBC News World, News World View, et également correspondant pour le quotidien The National, et dit, c'est un mythe de croire que l'Église ne se contente que de faire son modeste mieux. Voilà ce que Brian affirmait en s'appuyant sur son expérience et sa perspective mondiale en tant que journaliste et reporter dans son discours de la rentrée 2004 au Knox College à Toronto. Le titre de son allocution était bien à propos. Son titre, c'était « Partout les chrétiens sont sur les lignes de front les premiers ». En fait, Brian a confessé que durant les premières années de sa carrière de journaliste, il avait adopté l'idée bien répandue dans de nombreux cercles, y compris les médias, que l'Église, le plus souvent qu'autrement, n'était plus pertinente, ne faisait qu'exister dans les eaux retenues, moisies et sombres de la vie contemporaine. Par contre, chaque fois qu'on l'envoyait couvrir une situation de guerre, de famine, de tremblement de terre ou d'ouragan dévastateur, en fait, n'importe quelle calamité affectant la vie humaine, il y trouvait toujours des chrétiens déjà à l'œuvre, aidant généreusement et charitablement les gens dans le besoin. Bien avant que lui et son équipe de caméramans n'arrivent sur place, il fut rapidement frappé par cette simple réalité. Brian découvrait même des chrétiens, les légionnaires étrangers, dans les plus inattendus des endroits. Il raconte, « Un jour, alors que nous rendions en avion sur le site d'un désastre naturel, notre bimoteur a dû faire un atterrissage d'urgence pour faire le plein de carburant sur une piste déserte en plein cœur de la jungle d'Afrique centrale. Nous sommes descendus de l'avion en plein milieu de nulle part et avons été malgré tout accueillis par un joyeux pasteur de l'Église réformée des Pays-Bas. qui nous a offert le thé. Mon vétéran caméraman Mike Sweeney a plus tard poussé un soupir d'exaspération. Tu pourrais pas nous conduire à des lieux de reportage n'importe où où ces chrétiens ne seront pas là avant nous? Je n'ai jamais été en mesure de le faire. Selon Brian, ces chrétiens sont sur les lignes de front de l'humanité engagée aujourd'hui. Et lorsque je désire découvrir où se trouve ce front, je suis leur trace. À force de rencontrer des chrétiens partout sur les lignes de front, Brian a lui-même accepté Jésus et est devenu un croyant dynamique. Alléluia! Je veux annoncer ce matin la génération Néhémie. Elle est auprès des enfants, elle est auprès des pauvres, elle est auprès des monoparentaux, elle est auprès des personnes âgées. Elle dit amen n'importe quand que ça vous tente. Elle est ici dans ce pays, elle est partout au Canada, elle est en Haïti, elle est en Afrique. J'aimerais déclarer la levée, le réveil de l'église Néhémie qui va être là où des gens souffrent et je veux en faire partie. Et vous? Une clé d'espoir et d'engagement. Dieu veut et peut me rebâtir afin que je rebâtisse d'autres. Une clé d'enthousiasme parce que nous sommes appelés à une équipe. Néhémie a dit ces mots. Le roi m'a accordé ma requête parce que la bonne main de Dieu était avec moi. Mais alors que Néhémie avait ce cœur de vouloir être rebâti, rebâtir d'autres, savait que Dieu était avec lui. Intégrant, partie intégrale de son témoignage dès le départ était « Je peux pas le faire seul ». La deuxième clé essentielle, et c'est ce qu'on va traiter ce matin à la fin du message, la deuxième clé essentielle pour que vous puissiez être rebâti afin de rebâtir d'autres, c'est une clé où en Dieu vous retrouvez un enthousiasme pour la vie parce que vous acceptez et vous reconnaissez que vous n'êtes pas seul, que vous avez besoin de d'autres et que d'autres ont besoin de vous. L'Église, le rassemblement, le concept dans le cœur de Dieu, que les êtres humains viennent à Dieu, sont restaurés par lui pour par la suite venir les uns envers les autres et se soutenir. Néhémie l'a dit de cette façon, je me suis levé pendant la nuit avec quelques hommes. Si vous allez au chapitre 2 de Néhémie, les versets 17 et 18, chapitre 2, versets 17 et 18 qui sont aussi à l'écran, je leur dis alors, vous voyez le malheureux état dans lequel nous sommes. Jérusalem est détruite, les portes sont consumées par le feu. Venez et rebâtissons la muraille de Jérusalem. Nous serons plus dans la honte. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent. Voulez-vous dire à voix haute, ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Il y a une force lorsque nous venons en équipe. Il y a une force lorsque j'accepte que j'ai besoin d'aide et que j'accepte que Dieu m'appelle à aider quelqu'un d'autre. Les mots clés du livre de Néhémie, vous le lirez à la maison si vous lisez le chapitre 3, chapitre 4 qui suit verset après verset après verset. C'est sans arrêt comme si Dieu disait, il faut que ça pénètre ton cœur. Encore plus dans cette société moderne extraordinairement solitaire, extraordinairement égocentrique, extraordinairement indifférente à la souffrance autour d'elle et aussi extraordinairement secrète. Nous sommes dans une société où des gens sont chez eux et parlent sur Internet avec des identités fausses, se créent des univers en ne révélant jamais réellement qui ils sont. Nous sommes dans une société où des gens passent des dizaines et dizaines et dizaines d'heures à regarder des films, moi, devant ma télévision. Et des gens qui vivent leur vie entière sans s'ouvrir, sans reconnaître, en continuellement se cherchant à être autosuffisant. L'appel de Dieu à chaque croyant qui est ici, les mots clés de Néhémie, c'est que nous allons être changés alors que nous avons cet espoir et cet engagement. Dieu peut me rebâtir afin de rebâtir d'autres. Mais deuxièmement, j'ai un enthousiasme, j'ai une confiance que je peux être rebâti parce que je suis en équipe avec d'autres. Parce que je ne peux pas le faire seul. Je suis fortifié parce que nous sommes ensemble. Les mots clés, les chapitres 3 et 4, on a vu la semaine dernière, on conclut cette portion-là cette semaine. À côté de lui, à côté d'eux, derrière eux. Vous lisez chapitre 3, à tous les versets, ça commence avec « à côté de lui, il y avait », « à côté de lui, il y avait », puis toute une liste de noms. « À côté d'eux » et aussi « derrière lui, derrière eux ». Une clé pour être rebâti, j'ai quelqu'un à côté de moi et j'ai quelqu'un derrière moi qui me soutient. Et je deviens quelqu'un qui se place à côté de quelqu'un d'autre. Et je deviens quelqu'un qui aide et qui est derrière quelqu'un d'autre. J'ai quelqu'un à côté de moi pour m'aider à être rebâti. J'accepte qu'il soit là. Je m'ouvre à lui ou à elle. Je reçois son aide. Il y a quelqu'un à côté de moi pour m'aider à être rebâti. Il y a quelqu'un parfois qui est derrière moi pour littéralement me porter. Mais alors que je grandis, que je suis rebâti, je deviens quelqu'un qui ne garde pas cette bénédiction pour lui-même, qui n'est pas un chrétien assis dans l'église, se recroquevillé sur lui-même. Je deviens un croyant qui se tourne et qui se place à côté de quelqu'un d'autre, avec mes talents, avec mes dons, avec mon temps, et qui se place derrière quelqu'un d'autre. Et suivez-moi bien. Alors que l'Église est de plus en plus, chaque personne rebâtie parce qu'il y a quelqu'un à côté de toi, derrière toi, et que tu viens à côté de quelqu'un, derrière quelqu'un, tous ensemble, nous devenons un peuple qui se place derrière, nous avons été à côté de lui, derrière, à côté d'elle, derrière elle, mais ensemble, le texte dit aussi, ils se placèrent derrière eux, à côté d'eux. Il n'y a aucun leader, il n'y a aucun pasteur qui peut accomplir quoi que ce soit, quelle que soit l'ampleur de sa vision, à moins qu'il y ait un peuple qui soit derrière lui. Alors que nous soyons ensemble, un derrière les uns envers les autres, à côté les uns envers les autres, et derrière un leadership. Et tous ensemble, à ce moment-là, nous pouvons faire des choses extraordinaires, être rebâtis, et nous pouvons rebâtir d'autres. Avoir cet accomplissement que lorsque Néhémie a dit, l'ouvrage est considérable. Nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Alors, au son de la trompette, puis dimanche passé, une trompette qui a sonné à ce moment-ci. Rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu où vous l'entendrez. Et alors, notre Dieu combattra pour nous. C'est la vision qu'il y a à l'Église Nouvelle-Vie derrière tout ce que nous appelons les soins pastoraux. C'est la vision qui est d'un ministère extraordinaire qui touche tellement de gens, dirigé par le pasteur Denis Morissette, mais toute une équipe avec lui. Les soins pastoraux, c'est aimer, aider, assister. Des gens qui aiment les gens. Des gens qui aident des gens. La vision des soins pastoraux, la vision de l'Église, c'est que nous croyons passionnément qu'on peut être une Église de 80 personnes et que si nous n'avons pas cette vision d'aider, de soutenir, d'être à l'écoute, on peut être une Église de 80 personnes où les gens sont terriblement seuls et où leur vie n'est jamais bâtie, mais on peut être une Église de 5000 personnes où si nous avons cette vision et que ce grand groupe qui se rassemble le dimanche et continuellement en petits groupes la semaine, il n'y a pas de limite à comment nous pouvons grandir et être infiniment personnels et voir les besoins être rencontrés. Quelques statistiques de l'Église Nouvelle Vie. On est plus de 3000 personnes en ce moment qui fréquentent l'Église. Plus de 2000 visiteurs à nos réunions du dimanche à chaque année. Plus de 1000 personnes qui ont répondu aux appels au salut durant l'année. Dans mes notes, c'était écrit que vous diriez amen, mais je vais continuer quand même. Plus de 600 enfants et préados dans les classes du dimanche matin. Plus de 500 jeunes touchés par le ministère d'Impact Jeunesse. Parce que vendredi soir, ma fille revient et puis qu'il y avait une pièce de théâtre qui a pris place ici et qu'il y a un appel qui est fait et elle et son amie avaient invité une de leurs amies qui s'est avancée pour donner sa vie au Seigneur après la pièce de théâtre qui était faite entièrement par la jeunesse. C'est quelque chose qui monte dans mon cœur. Seigneur, ton cœur prend plaisir de voir des centaines, 500, 600, 700 ados qui sont pas dans une rave à quelque part en train de se geler, mais qui sont dans une église un vendredi soir en train de communiquer la vie à leurs amis. Come on, Nouvelle Vie! 125 personnes qui ont été touchées depuis un an. Des chiffres qui peuvent paraître grands. Alors, la question qui est sur nos cœurs comme pasteurs, comment rebâtir chaque personne? Comment faire en sorte que chaque personne puisse trouver l'aide qu'elle a besoin? Chaque personne puisse être rebâtie. Nous avons plus de 1500 personnes en ce moment. Notre objectif, c'est d'être 2000 dans les prochains mois qui, la semaine, participent à une réunion dans un groupe Cœur Nouvelle Vie. Il y a plus de 80 groupes en ce moment. Je viens ici le dimanche avec 3000 personnes, mais je peux, la semaine, être avec un groupe de 8 personnes, de 10 personnes, un groupe où on partage, qui sont à côté de moi et derrière moi. Et je suis quelqu'un qui est à côté de quelqu'un d'autre et qui est derrière quelqu'un d'autre, quelle que soit ma situation, mon âge ou mon besoin. Plus de 60 ministères et groupes qui sont à votre service. Plus de 4000 rencontres de relations d'aide par année. Nous avons 80 counseling par semaine, toute une équipe pastorale, un pasteur de garde à chaque jour, je veux le répéter. Il y a une urgence qui se passe, vous avez besoin d'aide, quelqu'un que vous connaissez a besoin d'aide. À chaque jour, il y a un pasteur qui est ici avec la fonction d'être pasteur de garde comme une salle d'urgence spirituelle. Il est là pour vous aider. Il peut vous conduire par la suite vers tout ce qui est les ressources qui sont là, vers un groupe de thérapie, vers un counseling prolongé, vers une relation d'aide, vers un groupe de soutien, quel que soit votre besoin. Et cette vision-là d'être à côté d'eux et derrière produit une explosion miraculeuse. Nous recevons des dizaines et dizaines de témoignages de gens, et ça me bénit. Des gens qui, je suis certain, sont bénis dans la grande assemblée, mais beaucoup, 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 et de plus en plus des témoignages qu'on reçoit, c'est des gens qui racontent le miracle qu'ils ont reçu, pas dans la grande assemblée dimanche, je suis certain qu'ils sont rencontrés ici, mais qui expliquent et racontent un miracle qu'ils ont vécu dans un petit groupe où ils ont été à côté de quelqu'un. ou quelqu'un est venu derrière eux, ou quelqu'un les a soutenus. Des personnes comme toi, qui est un jeune qui va dans un groupe jeunesse. Il y a un des groupes qui apparaissent à l'écran. Il y a 35 groupes en ce moment, jeunes en prière, des GI. Et Twain est un Thaïlandais, il a grandi dans un camp, il est sur la photo qui est là, il a grandi dans un camp de réfugiés, des missionnaires catholiques l'ont ramené au Québec. Aujourd'hui, il gagne bien sa vie, mais n'était pas chrétien. Sa conjointe est une jeune femme qui s'était éloignée de Dieu pendant plusieurs années. Elle est revenue à Dieu à l'automne dernier et fréquente un GIA, qui est un groupe de jeunes. Ils ont deux enfants et habitent ensemble depuis 4 ans. C'est un couple d'aujourd'hui. Elle lui a parlé de Jésus, l'a invité à l'église. Il aimait les réunions, mais elle a été vivement touchée par Dieu dans le GIA, dans le groupe qui est animé par Emmanuel Lafontaine. Emmanuel, qui est un ancien leader de gang haïtien de Montréalais, qui a été transformé, changé. Comprenez-vous, Dieu l'a rebâti et maintenant il est occupé et il est engagé à rebâtir d'autres. Ce soir-là, en échangeant et en posant des questions, il a compris le salut. Il s'est ouvert à raconter sa vie aux gars qui ont prié pour lui et l'ont adopté. Ce soir-là, il a découvert Jésus comme un sauveur pour sa vie. Il est retourné à la maison, il a dit à sa conjointe qu'il a maintenant un sauveur. Et de plus en plus, il adhère à des valeurs chrétiennes. Il est retourné au travail, il a dit à ses copains, « Vous pouvez pas comprendre, j'ai un sauveur maintenant. Je vis une nouvelle vie, je suis heureux. » Depuis qu'elle est revenue à Jésus l'automne dernier, ils font chambre à part les deux, et lui ne comprenait pas ce qui se passait. Elle a toutes sortes de nouvelles valeurs. Le mariage pour elle a toute une nouvelle signification. Maintenant, ils veulent se marier au printemps, à nouvelle vie, pour avoir la bénédiction de Dieu sur leur famille. Et nous avons entamé des cours de préparation au mariage ensemble. Ça a pris place dans un petit groupe où quelqu'un a partagé la foi. Un petit groupe où une femme comme Louise Roger est devenue une Néhémie, qui reçoit une construction, une consolation de la part de Dieu pour la donner à d'autres. Dans un groupe de femmes, des femmes se réunissent à chaque semaine, Louise écrit, « Pasteur Claude, je veux prendre quelques temps pour exprimer ma reconnaissance à Dieu pour le soutien que m'ont apporté les dames à la prière du mercredi matin. Il y a 2 ans, je suis passé par une période de grand découragement. Mon mari est malade depuis 1997, il a été hospitalisé en arrêt de travail plusieurs fois. Sa maladie a beaucoup affecté notre vie de couple et notre famille. Il venait tout juste de faire une rechute. Sa situation était désespérante et j'ai cru que ça n'irait jamais mieux. Je me suis donc retrouvé à un endroit où ma foi était vacillante. Je ne voulais plus croire aux promesses de Dieu pour ma vie et ma famille. Il y a peut-être quelqu'un qui est dans cet état-là ce matin. Ou quel que soit le sermon qui est prêché, le message qui est apporté, vous avez besoin de quelqu'un qui va venir à côté de vous. Quelqu'un qui va venir derrière vous. Quelqu'un qui va venir porter avec vous la situation, va venir combattre avec vous dans un petit groupe. Le soutien, la prière et l'encouragement de mes sœurs m'ont été d'un grand secours. Par la grâce de Dieu, j'ai repris courage et à nouveau, j'ai remis ma foi en Dieu pour ses promesses. Dieu m'a restauré, ainsi que notre couple. Depuis ce temps, nous sommes heureux. Mon mari travaille et fonctionne bien malgré la maladie. Nos enfants sont bien ancrés et sont heureux de fréquenter leur groupe respectif à l'église. Parce que des femmes se sont tenues à la brèche pour moi, nous dit Louise, parce qu'elles m'ont soutenu les bras alors que je les baissais, j'ai été restauré. Je crois que c'est la puissance de la prière qui a fait reculer les plans de destruction de l'ennemi sur ma vie, la vie de mon mari et de ma famille. Elle dit maintenant, comprenez maintenant la génération Néhémie. Non seulement que cette dame-là est restaurée, mais il y a quelque chose qui brûle en elle d'être maintenant une Néhémie pour quelqu'un d'autre. Je suis maintenant en étude avec le pasteur Denis Morissette dans un cours approfondi pour obtention d'un certificat en relation d'aide, pour être formé et ainsi relever avec l'aide de Dieu celle qui souffre. Laisse-moi vous donner un dernier témoignage pour ce matin, alors que j'arrive à la fin du message. Celui de Rémi et de Chantal. Laisse-moi vous donner le dernier témoignage ce matin, le témoignage de Rémi et de Chantal. Cher pasteur, je vous écris, c'est elle qui écrit, Chantal Henrique qui écrit. Je vous écris ces quelques mots pour vous dire comme je suis heureuse que l'Église Nouvelle-Vie ait pris l'initiative de commencer des groupes d'hommes, des hommes de parole depuis quelques années. Il y a une quinzaine de groupes hommes de parole à chaque semaine qui se rencontrent, des hommes qui se rencontrent en petits groupes pour parler, échanger, partager, être rebâtis, être reconstruits afin de reconstruire d'autres, à côté les uns des autres, derrière l'un l'autre. À mon avis, nous dit Chantal, une épouse d'un de ces hommes. Et ce qui est remarquable, pasteur Robert Saint-Jean donne un leadership à ce ministère-là, c'est qu'on a beaucoup d'hommes qui nous écrivent, mais on a peut-être encore plus de témoignages. C'est des femmes qui nous écrivent pour dire « Je suis assez contente que mon mari aille à ces groupes-là. Mon mari est transformé. » Que toutes les femmes mariées, penchez-vous vers vos hommes. C'est le temps, là. Et dites-lui, il faudrait que tu y ailles, chérie. Dites ça à quelqu'un près de vous. C'est Chantal qui nous écrit. Et elle écrit ces mots. Elle dit « À mon avis, ces groupes sont une nécessité pour tous les hommes de notre Église. » J'ai vu petit à petit mon mari, plusieurs choses, j'ai vu petit à petit dans la vie de mon mari tellement de choses changer et plusieurs choses qui nous détruisaient disparaître. Certaines mauvaises habitudes qui nous détruisaient et des attitudes également. Par contre, j'ai vu un changement radical en ce qui concerne la prière dans sa vie. Vous savez, nous sommes mariés depuis 19 ans et avons passé très près de la séparation plusieurs fois dans le passé. Nous avions toujours beaucoup de difficultés à nous entendre et vivions énormément de conflits. Beaucoup de combats de toutes sortes qui normalement auraient dû être réglés, mais étaient toujours présents. Mais lorsque la fidélité de mon mari a prié à chaque jour, a commencé, alors qu'il était aidé par d'autres hommes, encouragé, rapidement nous avons vu la différence. Et ce, parce que ces hommes s'unissent ensemble chaque semaine pour prier les uns pour les autres. Ce qu'il y a d'extraordinaire, nous dit Chantal, c'est comment Dieu répond à ses prières et les transformations inimaginables que nous vivons tous les deux. Je ne reconnais plus mon mari et moi aussi, je change tellement. Il avait toujours le temps pour tout, sauf pour les choses spirituelles, pour prier, pour l'Église et les choses de Dieu. C'était tellement difficile pour lui. Mais aujourd'hui, cela fait partie de son quotidien. Notre communication en tant que couple s'est tellement améliorée. Notre amour a pris une nouvelle force. Il y a de la paix dans notre maison. Les résultats sont magnifiques. Je vous ai écrit cette lettre pour que vous la lisiez à d'autres hommes qui hésitent encore à faire partie d'un groupe. Ils seraient surpris de voir tout le bien qu'ils pourraient en tirer et comment les choses qui les tiennent captifs depuis si longtemps, nous dit Chantal, pourraient disparaître à tout moment. Qu'est-ce qui serait arrivé à Rémi et Chantal si cet homme-là n'aurait pas pris un moment d'humilité et d'honnêteté pour dire « je m'en vais auprès de quelqu'un ». Ça aurait simplement continué à être assis dans un banc à l'église alors qu'il avait été depuis des années et que les conflits continuaient à la maison. Je salue son courage, sa foi de dire ce matin « j'y vais, je veux être un ennemi, j'ai besoin de l'équipe, j'ai besoin et maintenant j'ai quelqu'un qui vient à côté de moi, quelqu'un qui vient derrière moi et dans cet échange, dans ce partage, il y a un homme qui est restauré, il y a un mariage qui est restauré, il y a des enfants qui ont un papa et une maman qui sont restaurés et la génération Némi est ce que Dieu voulait qu'elle soit. J'aimerais qu'on prenne un instant ce matin alors que j'arrive à la fin du message pour simplement acclamer tous les miracles qui pourraient prendre place dans la génération Némi. J'invite les placeurs, les musiciens à s'avancer alors que j'arrive à la fin. Ce principe d'équipe à côté, derrière, m'ouvrir à quelqu'un afin que je puisse devenir un Néhémie pour quelqu'un, et partout dans les Écritures. On le voit dans la vie de Néhémie, peut-être que vous dites, « Oui, mais ça, il y a 6000 ans, c'est un homme politique, 4000 ans avant Jésus-Christ. » Alors, laissez-moi vous amener en conclusion ce principe de Néhémie à quelqu'un qu'on appelle dans les Écritures, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, Démas, qui, lui, est un simple chrétien dans une église. La Bible nous donne trois petits versets à propos de Démas, des petites lignes à son sujet, trois vignettes de sa vie, trois choses qu'on apprend, qu'on voit sur lui et qui, je crois, trois petits versets sur ce chrétien normal. Je crois que ces trois vignettes sont un appel, un avertissement et sont aussi un miroir pour des centaines d'entre nous ici ce matin. La Bible nous dit qu'il y avait eu trois étapes spirituelles dans la vie de Démas. La première étape de sa vie, c'était le Démas qui accomplit. La parole de Dieu nous dit, l'apôtre Paul dit de lui, « Démas était mon compagnon d'œuvre et de salut. » Démas avait connu dans sa vie chrétienne d'être le compagnon d'œuvre. Il était à côté de Paul, Paul était à côté de lui, il était derrière Paul, Paul était avec lui, il était impliqué, vous pouvez l'imaginer, quels que soient les talents qu'il avait, dans son église, servant et heureux et accompli, il était dans la génération Néhémie. Mais il y a quelque chose qui est arrivé à Démas. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous est arrivé. Parce que la Bible nous dit qu'il était Démas accompli et il est devenu Démas assis. La Bible, la deuxième fois qu'on entend parler de lui dans Colossiens, il y a juste un nom qui est mentionné. Avant, il était le serviteur, mon compagnon d'œuvre, mon partenaire. Mais Luc, le médecin, bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Quelque chose qui s'est passé en lui. Il est juste assis maintenant. Il n'est pas encore sorti, il n'est pas encore parti. Mais il ne sert plus le Seigneur. Il a des blessures peut-être qu'il ne veut plus parler. Il s'est fait une espèce de chimère dans sa tête qui est ténébreuse. Il s'est dit, moi, je ne m'implique plus, moi, juste à être là. Laissez-moi vous dire que chaque personne ici, je vais venir le dimanche, mais je ne suis pas à côté de personne, personne n'est à côté de moi, je ne m'ouvre pas à personne, personne ne s'ouvre à moi, je ne donne pas, je ne m'implique pas, je ne sers pas, je suis juste des masses assis. Et si c'est vous ce matin, je veux demander à Dieu toute l'onction qu'il peut nous donner. En ce moment, qu'il y a une révélation de vérité qui explose dans votre esprit, dans votre cœur, parce que Démas qui était accompli, qui devient Démas assis, est en grave danger de devenir Démas qui a abandonné. Accompli, assis. Et le dernier verset, les derniers mots qu'on dit de Démas me font frémir de peur pour plusieurs d'entre vous. Parce que la Bible nous dit que la troisième chose qu'on sait sur Démas, Paul dit, toutes les larmes qu'on ressent dans ce texte, toute la douleur de Paul, cet homme-là avait accompli la volonté de Dieu. Cet homme-là avait été accompli après ça pendant une période de temps qu'on ne sait pas combien de temps. A simplement été assis. Je suis certain que des morts, c'est pas dit, moi, je vais être assis dans un but simplement de tout détruire, de tout abandonner, de tout perdre, de souiller mon témoignage et de ruiner ma vie et celle de mes enfants et de communiquer ma froideur spirituelle à mes enfants pour que plus tard, il n'ait aucune valeur chrétienne et que l'ennemi puisse faire ce qu'il veut avec eux. Non, non, non. Des morts, c'est simplement dit, moi, je veux juste m'asseoir. Je veux prendre un temps de recul. Je veux m'arrêter. J'ai trop vécu d'affaires. S'est mis dans un mode de blâmer les autres, de se justifier lui-même, commencer à se permettre toutes sortes de choses dans sa vie qu'il serait jamais permis avant. Et démence accompli est devenu démence assis. Il est devenu démence qui a abandonné. Car démence m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti. Alors ce matin, je vais terminer ce message avec un appel. Pendant que notre ami Sébastien va commencer à jouer tout doucement, je vais aller à la dernière diapo si c'est possible. Je vais vous appeler ce matin. Je veux vous appeler à vous reconnaître. La Bible dit, la Bible, c'est un miroir dans lequel nous regardons. Je vais vous appeler avec douceur et amour à vous reconnaître ce matin. Est-ce que vous êtes des masses? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a besoin de revenir ce matin? A besoin de se rapprocher, de reconnaître? Je vais vous appeler à vous reconnaître, à ne pas résister à cet appel. Je vais vous appeler à vous rapprocher. Néhémie a dit, il y a trop d'espace entre vous et nous sur le mur. Il faut que vous vous rapprochiez et Dieu alors combattra avec nous. Je vais vous appeler à vous rapprocher. Et je vais vous appeler à recevoir ce matin une grâce, une onction, une puissance que Dieu donne. Et Dieu combattra pour nous. Que Dieu donne à ceux qui viennent avec un cœur ouvert. Je demande à tout le monde dans les dernières minutes de ce message, puis je vous remercie de votre attention à ce message. Je vais vous demander une dernière faveur. J'aimerais demander à tout le monde de pencher la tête dans un moment de prière. Je ne ferai pas d'appel ici à l'avant. Nous allons chanter le cantique « Digne est l'agneau » qu'on a chanté un peu plus tôt. Ce matin, je vais demander maintenant, Seigneur, Saint-Esprit, remplis ce lieu de puissance et de conviction. Seigneur, c'est des destinées éternelles qui sont en jeu. C'est des appels, c'est des ministères, c'est des familles, c'est des parents et leurs enfants. Il y a une clé dans ce lieu ce matin que tu veux donner à chaque personne qu'on peut s'emparer. Une clé qui refuse l'isolement. Refuse le refroidissement, l'éloignement sur la muraille. La voix de l'Esprit qui dit « Reconnais-toi. Reconnais-toi dans ce message ce matin. » La voix de l'Esprit qui dit « Reconnais-toi dans ce message ce matin. » Et la voix de l'Esprit qui te dit « Rapproche-toi ce matin. » Reconnais ton besoin. Peut-être que pour des hommes qui sont ici, ça va signifier cette semaine, la semaine prochaine. Je vais aller prendre le dépliant à l'arrière puis je vais me joindre à un groupe. Je vais venir à une réunion spéciale une fois par mois, un mercredi soir par mois. Une femme qui est ici, qui est en dépression, qui vit un burn-out, quelqu'un qui va se joindre à un des groupes qui aide des gens à se relever ici. Des gens qui vont regarder, qui vont réaliser qu'il y a une maison qui se réunit dans votre ville, à Saint-Hubert, à Longueuil, à Boucherville, ou à Montréal, à Laval. Il y a des maisons près de chez vous, que des chrétiens de cette église se réunissent. Des gens qui sont ici, qui vont simplement se reconnaître et dire « Je refuse d'être un démence ». Moi, j'ai déjà été démence qui accomplit. Et peut-être qu'en ce moment, vous êtes démence qui est assis. Démence qui ne réalisait pas, mais est en danger d'abandonner. Et ce matin, vous dites, je le refuse. Ce matin, je veux cette puissance. Je veux cette guérison dans mon cœur. Des choses que je ne suis pas capable de changer dans les sentiments que j'ai, dans les peurs que j'ai, les colères que j'ai. J'ai besoin d'être changé par la main de Dieu. Alors, je veux faire un appel à deux catégories de personnes ce matin. Si vous êtes ici, vous dites, il y a quelque chose dans ma vie qui est démoli. Tu me présentes un Dieu vivant, c'est quelque chose que je veux croire, je veux le croire par la foi. Mais des choses qui sont démolies dans ma vie, il y a des choses qui ont été démolies, des choses qui sont sombres, des choses qui me tiennent captif. Et ce matin, j'ai besoin d'un miracle de ce Dieu vivant. J'ai besoin que Dieu vienne me toucher. J'ai besoin qu'il fasse le miraculeux. Te raconter l'histoire de Brian, c'est inimaginable pour moi. Que cet homme-là qui avait tout essayé et qui avait fait 6 thérapies se retrouve dans un endroit chrétien où simplement des gens prient pour lui, apprend des principes chrétiens 24 heures à la fois et que pour la première fois de sa vie adulte, il est 14 mois sobre, que le Dieu de l'univers est venu le consoler et rebâtir sa vie. Mais moi, j'ai besoin de ce Dieu-là vivant. Il y a des choses que je ne suis pas capable de faire pour moi-même. Alors, si vous êtes ici ce matin et vous dites,
J'ai besoin d'un miracle de la part de Dieu. J'ai besoin d'être reconstruit dans mon cœur, mes émotions, dans ma vie, par la main du Dieu puissant. J'aimerais simplement vous demander de vous lever à votre place, là où vous êtes. Juste vous lever. Vous dites, j'ai besoin d'être rebâti par Dieu. Juste vous lever et dire, me voici, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'un miracle dans ma vie. Simplement vous lever là où vous êtes. Partout à travers ce lieu. J'ai besoin d'un miracle. Alors que ces hommes et ces femmes se lèvent avec transparence et honnêteté. Je veux demander ceci maintenant. Si vous êtes ici, tout le monde, s'il vous plaît, gardez les yeux penchés un moment. Vous êtes ici ce matin et vous dites, je me reconnais dans ce message. J'étais en danger de devenir un démas. Ce matin, je refuse de l'être. Je veux demander à Dieu une touche de guérison. Afin d'avoir la foi et le courage de me redonner, de me réimpliquer, de faire confiance à nouveau, je ne serai pas un démon juste assis pour devenir celui qui aura abandonné, celle qui aura tout laissé. Ce matin, je veux me lever pour prendre ma place dans la génération Néhémie. Ce matin, je veux me lever pour que Dieu me rebâtisse et je refuse de m'isoler. Je me reconnais dans ce message et je me rapproche, je veux me rapprocher de l'Église, du corps, des croyants. Ce matin, je refuse d'être un démence. Personne ne va juger qui que ce soit. Personne, on a tous été à un moment comme ça dans notre vie. Mais ce matin, si vous êtes ici, vous dites, je refuse d'être un démence. Ce matin, j'ai besoin d'une touche du Saint-Esprit dans ma vie afin d'être guéri et soulagé pour pouvoir recommencer. Je vous demande de vous lever à votre place, vous aussi. Je vous demande de vous lever là où vous êtes. Juste de vous lever. Alléluia. Prenez quelques minutes. Seigneur, Saint-Esprit, convainc des cœurs, Seigneur. Convainc des cœurs, Seigneur, qui se reconnaissent dans le message et qui ce matin se rapprochent, afin de recevoir de la part de Dieu. Je vais vous demander ceci maintenant. Nous allons être la génération Néhémie en pratique. Homme avec homme, femme avec femme, et les leaders de l'Église qui sont dans la salle, écoutez-moi bien. Si vous avez à vous déplacer, faites-le. Je vais demander maintenant que tout le monde puisse regarder à ces gens qui sont debout, et qu'on puisse se lever nous aussi, et que tout le monde puisse se placer à côté d'eux. Homme avec homme, femme avec femme, couple avec couple. Pour chaque personne qui s'est levée, il y a quelqu'un qui a mis son bras autour de son épaule. Une femme avec une femme, un frère avec un frère, une sœur avec une sœur, un couple avec un couple, des amis. Prenez quelques minutes, ouvrez les yeux autour de vous. Allez vous placer à côté d'eux, derrière eux, dans la génération Néhémie. Prenant notre place ensemble pour un miracle de la part de Dieu par le Saint-Esprit dans ce lieu. Nous allons chanter notre témoignage ce matin. Merci. Merci pour, j'aimerais que les paroles puissent être sur l'écran. Merci pour la grâce, Seigneur. Merci pour la croix. Et alors que nous allons chanter notre témoignage, si on peut mettre, je pense que j'ai une parole ici. Nous allons chanter ensemble. Alors que nous allons chanter notre témoignage et donner gloire à l'agneau, nous allons croire pour un déversement du Saint-Esprit dans ce lieu ce matin. Nous allons croire que ça va être un commencement. Que le 15 mai 2005 est un commencement pour vous. Un début, vous prenez votre place dans la génération Néhémie. Où il y a un cycle destructeur qui est arrêté ce matin. Il y a un cycle qui est brisé. Il y a quelque chose qui vous poussait vers la destruction qui s'arrête. Et il y a un commencement de paix, de consolation, de guérison qui va prendre place dans votre cœur. Pendant que les musiciens vont jouer, j'aimerais que toute l'Église ensemble, nous entrions dans ce chant de témoignage. Nous disons merci, Seigneur. Merci pour le prix que tu as payé. Seigneur, tu es venu m'étonner par ta grâce. Eh bien, ce matin, Seigneur, viens étonner ton peuple par ta grâce. Viens les étonner par comment tu es présent, comment tu es puissant, comment tu es personnel, Seigneur, pour chaque personne qui vient à toi. Chantons-le ensemble, prions-le ensemble. Et vous qui vous êtes approchés de quelqu'un, commencez à prier pour lui ou pour elle. Ce lieu devient une salle de prière pour la génération Néhémie. Des hommes et des femmes à côté d'eux, derrière eux, à côté de lui, à côté d'elle, derrière lui, derrière elle. Ensemble en prière pour un déversement de l'onction et de la présence de Dieu. Merci ensemble.
Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour la vie. Supportant tous mes péchés, tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour
Enseignement.com.
Enseignement.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignement.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.